Bonjour tout le monde. On va lire ensemble, mais d'abord, j'aimerais prier. Merci, notre Père Céleste, en ce jour de Pentecôte, pour ton Saint-Esprit. Merci qu'il vit et qu'il nous fait vivre. Merci aussi pour ta parole vivante qui est l'épée de l'Esprit. Alors agis en nous, Seigneur, pour couper le péché, pour travailler notre caractère et pour nous rendre conformes de plus en plus à l'image de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup l'école du dimanche. Je ne sais pas si vous connaissez l'école du dimanche, c'est là où sont les enfants lorsqu'en plein milieu de la réunion, ils disparaissent du milieu d'entre nous et ils montent dans leur classe, ils sont ensemble dans leur groupe, entre eux, mais aussi avec un moniteur ou une monitrice. Moi, j'avais Maggie, une dame de notre église, notre doyenne, était ma monitrice à l'école du dimanche quand j'étais enfant. On était dans une autre église, mais c'était elle qui m'a enseigné la parole de Dieu. Ma mère aussi était une des monitrices. Il y avait aussi une dame qui s'appelait Annie. L'école du dimanche, c'était beaucoup plus chouette que l'école, du lundi au vendredi. Ça s'appelait encore l'école, mais dimanche, c'était autre chose. Il y avait des images, il y avait des chants, il y avait des bricolages parfois, mais il y avait surtout des histoires de la Bible. En y réfléchissant aujourd'hui, je pense qu'on a passé plus de temps dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On parlait de Moïse, on parlait d'Élie, on parlait du roi David. Et puis il y avait cette histoire de Jéricho, celle qu'on va voir aujourd'hui. J'ai donné le titre pour le message d'aujourd'hui, le Sauveur est victorieux. On est en train de voir le portrait du Sauveur à travers les différents chapitres de Josué. Aujourd'hui, le Sauveur est victorieux. Mais vous savez, en tant qu'enfant, on lit cette histoire et c'est formidable. Les murailles sont tombées. Il y a eu une bataille et puis Josué a gagné. C'est une lecture littérale de ce qui s'est passé. Mais en tant qu'ado, quand on est ado, la leçon change un petit peu et devient plutôt symbolique. Les murailles sont les murailles de la philosophie ou de la muraille de la postmodernité ou du relativisme. Et tu vas voir, les murailles vont tomber. Nous sommes l'armée du roi. En tant qu'adulte, on va lire ça différemment. Soit on ne lit pas du tout cette partie de la Bible, ou alors on la lit, mais je vous invite aujourd'hui à la lire, et puis on va essayer d'interagir avec cette compréhension qu'on peut avoir en tant qu'adulte. En Josué chapitre 5, Josué a opéré une circoncision, ce n'était pas lui tout seul évidemment, mais il y avait la circoncision de tous les hommes du peuple qui ne l'avaient pas fait pendant les 40 ans précédents, et puis ils ont célébré la Pâque aussi. Mais au chapitre 5, verset 13, je lis ce qui se passe après. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. » Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, marchez, Fais le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche, sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois. Comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens, ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors... Oui, on ne va pas lire les deux derniers versets. Alors, ça vous fait réagir, n'est-ce pas, intérieurement. Tant que Josué ne faisait que parler au peuple et le conduire à la terre promise, tant qu'il établissait un mémorial en l'honneur de Dieu et qu'il essayait d'unir le peuple, tant qu'il voyait le miracle et traversait la rivière du Jourdain, ben, tout allait bien. Je dirais qu'on était plutôt d'accord, pas de problème. Mais ici, c'est la guerre qui commence. Et nous sommes mal à l'aise avec ce massacre, verset 21, on a entendu. Ils vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. On sent que nous sommes mal à l'aise avec ce massacre. Patrick, d'ailleurs, lorsqu'il avait prêché, en anticipant l'entrée dans Jéricho, était aussi un peu mal à l'aise par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes portés vers l'amour plutôt qu'à la haine. Nous sommes des messagers de vie plutôt que de mort. Notre mission est une mission de la part d'un Dieu d'amour pour sauver les gens. Et ce n'est pas un mandat de la part d'un Dieu de vengeance pour tuer des citoyens. C'est clair, notre mission n'est pas celle-ci. Et donc, nous sommes mal à l'aise. Nous pourrions choisir de prêcher tout autre chose, n'importe quel autre sujet. Nous pourrions essayer de nous concentrer sur le miracle, parce que les murailles sont tombées par un miracle de la part de Dieu. On pourrait parler des miracles aujourd'hui. On pourrait parler de la circoncision, de la Pâque, ce qui est venu au chapitre 5. Mais nous ne pouvons pas nier ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons pas non plus faire semblant que c'est une erreur. Vous savez, parfois, dans la Bible, le peuple de Dieu a fait des erreurs, a commis des fautes. Mais ici, ce n'est pas ça. Je veux vous montrer ce matin que cette partie de la Bible nous enseigne des exemples. Des exemples de sauveurs, puis des exemples de foi, et puis des exemples de jugement. Ces choses se sont réellement produites et elles sont écrites pour notre instruction, afin que nous sachions comment est vraiment notre Dieu. Alors on commence par le Sauveur victorieux. Si vous connaissez un peu la situation politique aux États-Unis, le président des États-Unis est le commandant en chef des armées, l'armée de l'air, l'armée navale et l'armée terrestre. Pardon. Et Josué pourrait se prendre pour le commandant en chef des armées de l'Éternel. Ils le suivent, n'est-ce pas ? Elles le suivent, pardon, c'est une armée. Et c'est pourquoi quand il rencontre cet homme, il veut comprendre qui est ce personnage. Un homme debout devant lui, son épée dégainée à la main. Chapitre 5, verset 13. Qui est cet homme ? Est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce que c'est quelqu'un de l'armée adverse ? En fait, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui apparaît à d'autres moments, quand Dieu envoie un ange pour parler. Il s'agit en fait du Fils de Dieu apparaissant sous forme humaine. Avant qu'il ait une nature humaine, le Fils de Dieu a toujours existé, n'est-ce pas ? Il était là avant le commencement. Et le Fils de Dieu est apparu quelquefois dans l'histoire. Il est apparu à Abraham comme un voyageur. Et il l'avait rencontré à sa tente. Il a rencontré Moïse au buisson ardent. Mais ici, il choisit de se révéler comme un militaire parce que le contexte est le contexte de la guerre. C'est approprié, n'est-ce pas ? Alors, comment savons-nous qu'il s'agit bien du Fils de Dieu ? D'abord parce qu'au verset 15, chapitre 5, il dit « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Nous sommes dans la présence d'un Dieu saint, et donc l'endroit où il est saint, sanctifié. Et chapitre 6, verset 2, c'est l'Éternel qui dit à Josué ce qu'il va dire. C'est l'Éternel qui parle. Et Josué se trouve subitement, de manière inattendue, dans la présence de Dieu. Ésaïe a vu la gloire de Dieu et les anges qui sont en train de proclamer « Saint, 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 l'Éternel ». Moïse a rencontré Dieu au buisson qui brûlait. Mais Josué a rencontré Dieu à ce moment-ci. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe le visage contre terre, il adore et il dit « Que dit mon Seigneur ?» Il est prêt à entendre ce que Dieu a à lui dire. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent ? Il y a aussi la question de Josué qui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Est-ce que tu es pour Israël ?» Et Dieu dit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » « Ah, alors tu es contre Israël ?» « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Toujours envie de savoir, n'est-ce pas ? Tu es de quel côté ? Et c'est un indice. Ce n'est pas que Dieu est en train de jouer de la politique là en disant « Ah, je suis un peu des deux, je suis un peu de ce côté-là, un peu de ce côté-là, je ne veux pas me prononcer sur pour qui je suis. » Ce n'est pas ça. Bien sûr, Dieu est le protecteur de son peuple, il est le défenseur et un refuge et un bouclier pour le peuple d'Israël. Il va les conduire à la victoire. Mais Dieu est aussi objectif, Dieu est au-dessus de nos tribus, de nos factions. L'Éternel qui envoyait Israël à l'époque pour punir les peuples cananéens, allait ensuite expulser Israël quand Israël commençait à se conduire comme les peuples païens. Le camp d'Israël, verset 18, chapitre 6, pourrait être en danger s'il y avait des compromis. Donc Dieu n'est pas pour eux dans le sens de dire « vous pouvez faire n'importe quoi et je serai toujours pour vous ». Il n'est pas de leur côté, mais eux sont de son côté. Alors si aujourd'hui nous sommes tentés de dire « est-ce que Dieu est pour les hommes ou pour les femmes ?» La réponse sera ben « non ». Est-ce que Dieu est pour les évangéliques ou pour les charismatiques ? Est-ce que Dieu est pour les calvinistes ou pour les pentecôtistes ? Non, il est du côté de Jésus. Je ne dis pas que la doctrine n'a pas d'importance ou qu'il n'y a pas des choses que nous devons croire qui sont vérités sur Jésus, bien entendu. C'est capital. Mais nous voulons être de son côté et pas le prendre pour être de notre côté, en quelque sorte. Nous ne pouvons pas le connaître sans connaître la vérité sur lui. Mais il n'est pas un stéréotype. Nous devons l'adorer et l'écouter et le suivre tel qu'il est, qui dépasse peut-être notre entendement. Savoir qui il est vraiment. Et peut-être qu'on est en train de réagir intérieurement en disant « Oui, mais ici, c'est l'Ancien Testament. Oh, Jésus, c'est pas comme ça. L'Ancien Testament, Dieu était d'une certaine manière, mais après, avec Jésus, c'est tout à fait autre chose. » Non. On va faire l'aller-retour au dernier livre de la Bible, qui est le dernier livre de Nouveau Testament, pardon, l'Apocalypse. Et je vais juste vous lire un extrait de l'Apocalypse 19, avant de revenir à Josué. Apocalypse 19. Regardez le verset 11. Une vision de la part de Jean, comme le reste de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il voit ? Apocalypse 19, 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voici le portrait du commandant des armées de l'Éternel. » Et il n'y a pas de foule de candidats, n'est-ce pas? Les armées célestes sont conduites par le chef de l'armée, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas devenu mou. Il n'est pas faible aujourd'hui, il est le même sauveur puissant, victorieux, que Josué a rencontré ce jour-là et qui lui assure la victoire, parce que ce n'est pas Josué qui va vaincre à Jéricho, c'est le Fils de Dieu qui va accorder la victoire. Nous essayons de voir aussi dans cette série comment Josué est un peu comparable au sauveur, et là on voit comment la victoire est assurée à Jéricho, à Josué. Le chapitre 6, verset 1, révèle que la ville est fermée. On ne laissait pas sortir les gens parce que dehors, il y avait l'armée des Israélites. Mais en même temps, les portes sont fermées, verrouillées. On ne laisse entrer personne. Personne ne pourra entrer à Jéricho. Et donc, la déclaration du verset 2 est d'autant plus frappante. Dieu dit, je te donne Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Je te le donne. Cadeau. Verset 16 reprend la même chose. Poussez des cris, car l'Éternel vous donne la ville. Une victoire qui est donnée par Dieu. Alors il y a plein de parallèles avec le Nouveau Testament. Mais nous pouvons citer 1 Corinthiens 15, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de la résurrection en 1 Corinthiens 15 et termine avec ça. Donc Jésus est ressuscité, c'est Jésus qui est victorieux. Mais Dieu nous donne la victoire par Jésus. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël voit cette victoire. Dieu donne la victoire à Josué, Josué donne la victoire à son peuple. Alors, posons la question, comment va ta victoire contre le péché? Comment va ta victoire contre le péché? On va dire, oh, c'est pas évident, hein. Parfois ça va, parfois ça va moins bien, etc. Non, ta victoire contre le péché, elle est déjà acquise. Elle est acquise à la croix. Nous avons à lutter. Le peuple doit entrer dans la ville. Mais la victoire est garantie par Dieu. Ce n'est pas l'armée qui va décrocher la victoire. Josué l'a appris ce jour-là. Et nous devons l'apprendre aujourd'hui. La victoire, elle est pour ceux qui mettent leur foi en Christ. Vous êtes du côté du gagnant? Vous avez mis votre foi en ce sauveur victorieux. Célébrons cela aujourd'hui. Mais deuxièmement, il y a des exemples de foi dans ce chapitre. Alors, il y avait un peu de temps avant, il y avait les espions qui avaient été envoyés dans la ville de Jéricho. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un moment dangereux. Un moment dangereux. Vous pouvez dire, oui, c'est dangereux pour eux, parce qu'ils pouvaient mourir. Oui, ce n'était pas ça, le danger. Le danger, c'était que 40 ans auparavant, Josué avait été entré, avait été envoyé comme espion dans le pays. Et lorsqu'il était retourné avec les 11 autres espions, ça avait été la débâcle, la révolte, le manque de foi. Et donc le danger, la crise qui risque d'y avoir lorsque les deux espions rentrent après avoir été voir Jéricho, c'est qu'on recommence le cycle et que tout le monde dise « Oh non, on ne va pas croire en Dieu, ça ne va pas se passer ». Heureusement, Dieu les avait tellement encouragés par le discours de Rahab que les espions ont rendu un avis positif. Et maintenant, tous les soldats sont prêts. Verset 3, ne vous en faites pas, on ne va pas regarder tous les versets. Mais verset 3, « Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. » Alors, on a du mal à imaginer ça, n'est-ce pas? Je vais résumer un petit peu le tableau qu'il y a là. Il y a la boîte de l'Alliance, qui était portée par les prêtres. Il y a 7 prêtres avec des trompettes. Et puis, il y a une grande foule de soldats, l'armée, toute l'armée était là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font le tour de la ville. Il se balade. Et vous imaginez un jeune soldat qui parle avec un soldat un peu plus âgé, lui qui a peut-être eu une autre bataille avec Moïse. On va faire quoi là? Ah ben on va marcher. Ah ok. Et quoi? On cherche des brèches dans la muraille? On essaye de voir un endroit stratégique où on pourrait assiéger la ville? Est-ce qu'il y a une porte qui est peut-être un peu moins bien gardée que les autres? C'est ça? Une recherche stratégique? Non, non. On marche. Tais-toi et marche. Verset 10 dit, il ne faut même pas parler pendant qu'on fait la marche. Donc c'est une marche silencieuse. Et puis on rentre au camp, et puis c'est la soirée, on mange ensemble, etc. Et le lendemain, on recommence. Ils l'ont fait pendant toute une semaine, le sabbat aussi. Et donc imaginez qu'on avait commencé à faire ça, nous, mercredi. Aujourd'hui, ce serait le 5e jour, on se lève, on prend un petit déjeuner, on sort, on va tous faire le tour de la ville, tous les soldats, et puis on rentre. Et un jour, 7e jour, c'est le dernier. Mais pendant cette semaine, il n'y avait rien qui a bougé. Rien n'a changé. Les murailles étaient toujours les portes étaient toujours fermées, les murailles étaient toujours intactes. Et le 7e jour, il a fait encore 7 fois le tour. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Ça requiert une chose. Ça requiert de la foi. Pour continuer à faire ça, le lendemain et le lendemain, ils ont tous cru. Ils n'ont rien compris, mais ils ont tous cru. Le 7e jour, après le 7e tour, ils ont crié. Et les soldats agissaient ainsi parce qu'ils ont cru que ça allait se faire. Alors, vous savez, la leçon de cette première partie du chapitre, ce n'est pas que quand on a la foi, les murailles tombent. La leçon que nous apprenons est que quand on a la foi, on obéit à Dieu. On obéit au Seigneur. Même si ça n'a pas de sens aux yeux du monde. Quand un couple veut se marier, tout le monde leur dit « Essayez avant de vous engager. Voyez si vous êtes compatibles au lit avant de dire oui. » Et le couple dit « Non, on obéit au Seigneur. » Ou quand un étudiant sait qu'il peut tricher pour avoir une meilleure note, mais il dit « Non, je ne veux pas déshonorer le Seigneur. » Vous voyez ? On n'est pas en train de suivre l'exemple des autres. On est en train d'obéir à notre maître. Et les autres exemples de foi sont tout aussi remarquables. Il s'agit de Rahab et de sa famille. J'aimerais juste évoquer ça brièvement avec vous. Il y a une interruption au verset 17. Il vient juste de dire « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville ». Et puis, avant de continuer à pousser des cris, il va expliquer. Attention, verset 17, on garde la prostituée Rahab en vie. Pourquoi? C'était convenu qu'elle ne mourrait pas, elle avait hébergé les espions, elle les avait aidés à s'enfuir de la ville sans être mise à mort et attrapée. Et donc ça va être répété au verset 22, et puis on lit au verset 23, les jeunes espions entrèrent chez Rahab, ils savaient où c'était, on firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens, Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Je veux qu'on comprenne cela. Voilà un petit moment qu'elle avertissait les membres de sa famille. Les Israélites vont gagner. Notre ville, même si elle paraît puissante, ne va pas pouvoir résister à l'envahisseur. Mais j'ai une promesse, que ceux qui viennent chez moi, ceux qui seront avec moi dans ma maison, seront en sécurité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Vous êtes à Rafa, l'armée israélienne avance, et vous entendez ce genre de promesse? L'armée est puissante. Elle encercle la ville depuis une semaine. Et allez-vous croire tante Rahab, celle qui est la moins honorable dans toute votre famille? Vous allez vraiment croire que vous serez en sécurité dans le bordel de Rahab quand la ville tombe? Alors c'est croire ou ne pas croire est un choix capital. Ceux qui ont cru Rahab se sont réfugiés dans sa maison et ils ont été sauvés. Ceux qui n'y croyaient pas, ben, ils sont perdus. Et dans l'épître aux Hébreux, il revient sur ce moment de l'histoire du peuple de Dieu et dit ceci. Hébreux 11, vous ne devez pas le trouver, mais je vais juste le lire. Hébreux 11, versets 30 et 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Vous voyez, ce sont des exemples de foi. Jéricho, c'est l'histoire de croyants, les croyants israélites dans l'armée, et Rahab et sa famille qui ont cru les promesses de Dieu. Alors ça nous interpelle. Parce qu'aujourd'hui, oui, les promesses ont changé. Ce ne sont pas les mêmes promesses qu'elle avait eues. Mais si nous croyons la parole de Dieu, si nous croyons que Dieu dit vrai, alors nous serons bien entendu en minorité. Ça peut nous sembler bizarre aux autres. Mais pour ne pas mourir, pour ne pas périr, pour être sauvé, il faut croire. Les parents de Rahab n'ont peut-être pas trop compris, ils ont juste cru qu'elle disait la vérité. Et si toi, tu ne comprends pas exactement comment ça se passe, ou comment ça marche, que Jésus, mort à la croix, lui tout seul, une seule fois, portant sur lui toute la saleté du péché de millions de gens, qu'il prenait la colère de Dieu contre nous, sur lui, vous ne comprenez pas comment nos nombreuses offenses contre Dieu peuvent être pardonnées par Jésus, mais vous y croyez, vous mettez votre confiance en lui, eh bien ce sera suffisant pour que vous soyez sauvés. Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen qui existe pour être sauvé. Il ne faut pas nécessairement avoir tout compris, mais il faut mettre notre foi au bon endroit, ne passez pas à côté. Et je veux juste dire un mot par rapport à Rahab elle-même. La façon dont Dieu a fait chuter cette ville est extraordinaire. Mais la grâce qu'il a démontrée envers Rahab est quelque chose de merveilleux. Elle n'est pas une personne noble. Ce n'est pas le bourgmestre de la ville que Dieu a décidé de sauver ce jour-là. Elle n'est pas riche, elle n'est pas puissante, elle n'est même pas quelqu'un de recommandable sur le plan éthique. Sa vie n'est pas droite, n'est pas recommandable. Mais Dieu veut qu'elle soit dans son royaume. Quel Dieu avons-nous? Un Dieu qui fait grâce. Mais lorsque Dieu fait grâce, il fait vraiment grâce. Ce qui veut dire qu'il va vers les personnes qui ont la pire vie. Et ce sont souvent elles qui aiment Jésus le plus. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Regardez ceux qui ont aimé Jésus, ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui étaient contents que Jésus soit là. Ce sont des personnes de mauvaise vie. Alors, est-ce que Rahab a continué à vivre comme avant? Non. Non, dans ce moment où le livre de Josué est écrit, on vérifie et Rahab est toujours vivante, mais elle vit maintenant parmi le peuple. On apprend qu'elle s'est mariée avec un homme juif, elle s'est intégrée, elle est devenue un exemple de foi et d'obéissance à Dieu. Bien sûr, elle ne vivait plus comme avant. Les choses ont changé. Mais n'oublions pas, qui que nous soyons, c'est possible que le monde nous excuse, mais que notre conscience nous accuse et qu'on se rend compte qu'on a un problème avec Dieu parce que notre mode de vie ne plaît pas au Seigneur. Eh bien, vous savez quoi ? Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Mais pour cela, nous devons le croire. Même si nous nous sentons impurs et indignes, Dieu est prêt à laver nos fautes. Il l'a fait de manière définitive à la croix. Il le fait encore aujourd'hui pour tous ceux qui se confient en lui. Quelle formidable nouvelle ! Mais je vais terminer par le jugement réel. Nous venons alors à la destruction, à la fin du chapitre. Nous voyons que Rahab et sa famille sont sauvés, mais les autres sont tués, verset 21, lorsque l'armée s'empare de la ville. Et c'est ce que Dieu a voulu. Alors, ce n'est pas pour que le peuple en profite. Ce n'est pas pour qu'Israël s'installe dans cette ville et profite des animaux ou des murs ou des maisons. Tout va être démoli et à la fin du chapitre, Jéricho ne sera plus reconstruite. Elle ne sera plus habitée pendant longtemps suite à une malédiction de la part de Josué. Donc nous comprenons que ce n'est pas une saisie des biens, mais c'est autre chose. Lorsque l'armée entre à Jéricho et tue des gens, c'est parce que c'est un acte de jugement contre eux pour leur péché. Josué, en fait, n'était pas seulement un sauveur, c'était aussi celui qui amenait le jugement de Dieu. Il sauve les uns, mais il condamne les autres. Et n'est-ce pas exactement ce que Jésus est aujourd'hui et à l'avenir ? Lorsque Jésus viendra, il viendra pour nous sauver, mais il viendra aussi pour juger, pour condamner ceux qui sont révoltés contre lui. Pourtant, Dieu l'avait annoncé. Il avait annoncé longtemps à l'avance. En Genèse 15, on verra ça en plus de détails dans l'étude biblique ce jeudi soir. Mais Dieu annonçait à Abraham que sa descendance hériterait ce pays, entrerait dans le pays. Mais quand ? 400 ans plus tard. Quand la faute des Amoréens serait à son comble. Alors prenez un moment pour penser à ça. Pensez au péché dans la société qui vous choque le plus. Je ne dois pas vous donner des suggestions. Ce que vous dérange le plus dans la façon de vivre de nos contemporains aujourd'hui, que Dieu juge cela comme péché, parce que Dieu est pleinement opposé au péché. Et puis que Dieu dise, je vais punir ce péché en 2424. Quand la société aura été encore pire qu'elle l'est aujourd'hui. 400 ans, je vais punir ce peuple. Je pense que généralement, si nous sommes choqués par la justice de Dieu, nous devons être plutôt choqués par la miséricorde et la patience de Dieu. Quoi, il va attendre tout ce temps pour intervenir, pour punir, pour juger ? Oui, il va attendre. Et là, ce n'est que l'aboutissement de cette longue période d'attente. Mais la patience ne signifie pas qu'il n'y a jamais de fin, qu'il n'y a jamais de jugement. Au contraire. Alors je termine en disant simplement pour nous, nous qui sommes là aujourd'hui, si vous avez du mal avec la notion du jugement, avec le fait que Dieu est juge, j'aimerais vous interpeller à accepter la réalité du jugement de Dieu et à voir que c'est un attribut de Dieu qui est tout aussi louable que sa bonté. La Bible n'excuse pas le fait que Dieu est juge, que Dieu est juste. C'est une bonne chose, c'est une qualité de Dieu. Et je veux vous encourager à lire le psaume 96, il y en a d'autres bien sûr, mais lisez le psaume 96 pour méditer sur le fait qu'on se réjouit de la justice de Dieu. Mais si, pour d'autres parmi nous, vous croyez déjà au jugement et vous êtes déjà à l'aise avec cette notion de jugement, peut-être que ce qu'il vous faudrait, c'est vous émerveiller à nouveau devant la patience et la bienveillance de Dieu. De ne pas regarder les autres en disant « Ah, mais il mérite la mort !» mais plutôt de dire « Oh, j'aimerais tellement qu'il puisse être pardonné. J'aimerais tellement qu'il puisse être comme Rahab, sauvé de son immoralité. Que Dieu la sorte de là, qu'il fasse miséricorde encore aujourd'hui et que la bonne nouvelle se répande. Parce que le Sauveur, dans sa bonté, veut sauver encore aujourd'hui. Le Sauveur sera victorieux. La question c'est de quel côté serons-nous ? De son côté ou du côté de ses ennemis ? Prions. Oui, Seigneur, tu nous mets devant un choix, comme le peuple de Josué, comme Josué lui-même, comme Rahab et sa famille, un choix. Allons-nous croire que tes promesses sont vraies? Allons-nous compter sur toi, sur ton Fils, pour nous sauver? Ou allons-nous faire comme si de rien n'était et dire ben, « je verrai bien ». Serons-nous prêts pour ton jugement? Serons-nous prêts parce que nous sommes déjà réconciliés avec toi? Ou serons-nous encore loin de toi, dans l'opposition? Ô Seigneur, fais grâce aujourd'hui, sauve ton peuple, bénis-nous, et que nous puissions être aussi porteurs d'espérance dans ce monde perdu, pour ta gloire.